Chapitre 3. Le coq couronné. Yanni Rouprous se hâtait le long de l'immense corridor et ses pas sonnaient creux. Tout en marchant, elle laissait traîner les doigts sur le long ruban de gitzine incrusté dans le mur qui, à ce contact, émettait une faible lueur. La lumière se déplaçait avec elle dans le couloir obscur qui s'enfonçait au cœur du palais labyrinthe des anciens. Elle dut à deux reprises contourner des flaques d'eau noire sur le sol dallé. Machinalement, elle en remarqua la localisation. Dès le retour des pluies de printemps, la situation se répétait. L'épaisse couche de terre au-dessus et les racines traçantes commençaient à remporter le lent combat contre l'ancien édifice enfoui. Le bruit égal de l'eau qui dégouttait faisait contrepoint aux pas précipités. Il y avait eu un tremblement de terre la nuit précédente, mineur selon les critères du désert des pluies, mais plus intense et plus prolongé que les secousses habituelles. Yanni se refusait résolument à y penser tandis qu'elle se hâtait dans l'obscurité. L'édifice avait bravé la grande catastrophe qui avait rasé la majeure partie de l'antique cité. Yanni pouvait certainement compter que le palais résisterait encore quelque temps. Elle atteignit enfin un vestibule voûté, fermé par une porte massive en métal. Elle promena légèrement les mains à la surface et le coq couronné, sculpté en ronde bosse, s'anima de reflets miroitants. Cela ne manquait jamais de l'impressionner. Elle comprenait fort bien la réaction de son ancêtre, qui, en découvrant la sculpture, avait sur le champ fait du coq couronné son emblème. Sur la porte, le coq menaçant montait sur ses ergots, les ailes à demi déployées, le cou tendu, hérissé de plumes brillantes. Une pierre, enchâssée dans son œil, étincelait d'une lumière noire. En lui se combinaient élégance et arrogance. Elle posa une main ferme sur son jabot et repoussa la porte. Les ténèbres béantes s'ouvrirent devant elle. Guidée seulement par sa longue familiarité avec les lieux, elle descendit les degrés bas qui menaient à l'immense salle. Plongée dans l'obscurité plus vaste de la salle du coq couronné, elle fit la grimace. Rein n'était pas là, décidément. Elle avait parcouru tout ce chemin pour rien. Elle s'arrêta au pied des marches, en regardant aveuglément autour d'elle. Elle sursauta en entendant résonner dans le noir la voix de son fils. « Tu n'as jamais essayé de te représenter cette salle comme elle était jadis ? Imagine, mère. En un jour comme celui-ci, le soleil printanier devait briller à travers le dôme de cristal et aviver toutes les couleurs des fresques. Que faisait-il ici ? D'après les profondes rigoles dans le sol et la disposition aléatoire des tables, je ne pense pas que les fûts de bois sorciers aient été entreposés ici à l'origine. Non. Je crois qu'on les a transportés en hâte dans cette salle pour les sauver du désastre qui engloutissait la cité. Donc, avant cette époque, à quoi était-elle destinée, cette immense salle avec son dôme de cristal et ses fresques sur les murs ? D'après les pots de terre qu'on a trouvés, on peut supposer qu'ils y cultivaient des plantes ? S'agissait-il simplement d'un jardin abrité où l'on pouvait se promener tranquillement, même par la plus forte des tempêtes ? Ou était-ce...
Reine, il suffit !
S'exclama sa mère, agacée. Elle chercha à tâtons la bande de gitzine sur le mur, y appuya fermement les doigts et quelques panneaux décorés lui renvoyèrent une faible lueur. Elle fronça les sourcils. Dans son enfance, la lumière était beaucoup plus vive. Chaque pétale de fleur brillait. À présent, il se ternissait de jour en jour. Elle repoussa l'idée consternante qu'il s'éteignait. Elle demanda d'une voix légèrement irritée « Que fais-tu ici dans le noir ? Pourquoi n'es-tu pas dans le corridor ouest à surveiller les ouvriers ? Ils ont dégagé un nouveau portail dissimulé dans un mur de la 7e salle. Nous avons besoin de toi là-bas. Avec ton intuition, tu peux découvrir le moyen de l'ouvrir. »
« Le moyen de le détruire, tu veux dire ?»
corrigea Rein.
« Ah, Rein !»
fit sa mère d'un ton réprobateur. Elle était si lasse de ses discussions avec son fils cadet. Lui qui, plus que les autres, possédait le don de forcer les demeures des anciens à livrer leurs secrets, était aussi le plus réticent à en faire usage.
« Que voudrais-tu que nous fassions ? Que nous laissions tout cela enfoui, oublié, comme nous l'avons trouvé ? Que nous abandonnions le désert des pluies et que nous nous réfugions à Terrilleville pour y vivre avec nos parents ? L'asile serait de courte durée. »
Elle perçut le bruit léger de ses pas alors qu'il contournait le grand fût de bois sorcier, le dernier entreposé dans la salle du coq couronné. Il se déplaçait comme un somnambule. Le cœur de Yanni se serra en observant son fils qui laissait filer ses doigts sur le tronc massif. Il était revêtu d'une cape et coiffé d'un capuchon à cause de l'humidité glaciale de la salle.
« Non, » dit-il à mi-voix. « J'aime autant que toi le désert des pluies. Je n'ai aucun désir d'aller vivre ailleurs. Mais je pense que mon peuple devrait cesser de se cacher, de piller et de détruire l'ancienne terre des anciens uniquement pour monnayer notre propre sécurité. Je pense qu'au contraire, nous devrions restaurer et révérer tout ce que nous avons découvert ici. Nous devrions dégager la cité de la terre et des cendres qui la recouvrent, la rendre aux rayons du soleil et de la lune. Nous devrions dénier la suzeraineté du gouverneur de Jamelia, refuser d'acquitter l'impôt et de nous plier à ses conditions. Nous devrions commercer librement à notre gré. »
Sa voix s'éteignit. Yanni lui jeta un regard furibond, mais il poursuivit.
« Montrons-nous tels que nous sommes. Relevons la tête. Proclamons que nous vivons ici non parce que nous avons honte, mais parce que nous l'avons choisi. Voilà, selon moi, ce que nous devrions faire. »
Elle soupira.
« Tu es très jeune, reine, » prononça-t-elle simplement.
« Si par « jeune » tu entends « sot », dis-le, »
répliqua-t-il sans agressivité.
« Pas « sot », répondit-elle doucement. « J'ai dit « jeune ». C'est tout.
Le fardeau des rivages maudits ne pèse pas aussi lourdement sur toi et moi que sur les autres marchands du désert des pluies. D'une certaine façon, notre sort n'en est pas plus enviable. Nous nous rendons à Terrilleville. Derrière nos voiles, nous déclarons « Je ne suis pas si différent des gens d'ici. Avec le temps, ils finiront par m'accepter et je pourrai circuler librement parmi eux. »
Peut-être oublies-tu combien il est pénible, pour Kiss ou Amantille, de se dévoiler au regard profane.
Au nom de ses sœurs, Reine baissa les yeux. Personne n'aurait su expliquer pourquoi la tare physique qui était le lot commun des enfants du désert des pluies les avait si gravement affligés alors qu'elle avait quasiment épargné Reyn. Ici, parmi leurs semblables, le fardeau n'était pas insupportable. Il n'y avait pas de raison de s'émouvoir à la vue d'un visage qui présentait la même peau grêlée ou les mêmes excroissances que les siennes propres. En revanche, à l'idée de sa petite demi-sœur Kiss, arpentant sans voile les rues de Terrilleville, il se sentait gêné. Yanni lut sur le visage de son fils aussi clairement que sur un parchemin. Il plissa le front devant cette injustice.
Une moue amère aux lèvres, il reprit. « Nous sommes un peuple riche. J'ai beau être un jeune sot, je sais tout de même que nous pouvons payer pour être acceptés. Nous devrions être parmi les plus riches au monde si le gouverneur n'était pas sur notre dos à piller notre bourse. Souviens-toi de ce que je te dis, mère. » Si nous pouvions au moins nous libérer du joug des impôts et des limites que Jamelia impose à notre commerce, nous n'aurions pas besoin de détruire les richesses que nous mettons au jour. Nous pourrions exhumer et restaurer cette cité au lieu de la dépouiller de ses trésors pour aller les vendre ailleurs. Les gens viendraient ici, en payant volontiers leur passage sur nos navires pour remonter le fleuve. Ils ne détourneraient plus les yeux, car on finit toujours par aimer les riches.
Nous aurions alors le loisir de découvrir les clés qui nous dévoileraient les secrets que nous détachons aujourd'hui à coups de marteau. Si nous étions vraiment libres, nous pourrions déterrer les splendeurs de cette cité. La lumière du soleil inonderait cette salle comme jadis, et la reine qui gît ici prisonnière...
« Reine, » dit sa mère à voix basse, « retire ta main de ce fût. »
« Ce n'est pas un fût, » fit-il aussi doucement. « Ce n'est pas un fût. Nous le savons l'un comme l'autre. »
Et l'un comme l'autre, nous savons que les paroles que tu prononces ne viennent pas uniquement de toi. Reine, qu'importe le nom qu'on lui donne, nous savons l'un comme l'autre que tu as passé beaucoup trop de temps à son contact, à étudier les fresques, à contempler les glyphes sur les piliers. Ce bois t'influence et s'approprie tes pensées.
Non ! Protesta-t-il sèchement. « Ce n'est pas vrai, mère. Certes, j'ai passé beaucoup de temps dans cette salle et j'ai étudié les traces laissées par les anciens. J'ai étudié aussi ce que nous avons excavé du cœur de ces fûts qui se trouvaient jadis dans la salle. »
Il secoua la tête et ses yeux cuivrés étincelèrent dans l'obscurité.
« Des cercueils. C'est ce que tu m'as dit quand j'étais petit. Mais il ne s'agit pas de cercueils. » « Berceau » serait un mot plus juste. En outre, si sachant ce que je sais aujourd'hui, je tarde à éveiller et à libérer la dernière qui reste, cela ne signifie pas que je suis tombé sous son influence. J'en suis simplement venu à comprendre où est mon devoir.
« Ton devoir, c'est de demeurer loyal envers les tiens, » rétorqua sa mère, irritée. « Reine, je te le dis clairement. Tu as passé tant de temps en compagnie de ce bois sorcier que tu ne sais plus où finissent tes propres pensées et où commencent ces sournoises incitations. Ton désir procède au moins autant d'une curiosité enfantine contrariée que d'une soif de justice. Regarde comme tu agis aujourd'hui. Tu sais qu'on a besoin de toi, mais où es-tu ?
Ici, avec celle qui a le plus besoin de moi, car elle n'a pas d'autre avocat.
Il est très probable qu'elle est morte, déclara brutalement sa mère. Reine, tu t'enflammes pour des comptes de nourrice. Depuis combien de temps ce fût est-il là, avant même que nous découvrions l'endroit? S'il y a jamais eu une vie à l'intérieur, elle est éteinte depuis longtemps, ne demeure que les échos de sa soif d'air et de lumière. Tu connais les propriétés du bois sorcier. Un fût évidé devient libre d'absorber les souvenirs et les pensées de ceux qui sont en contact quotidien avec lui. Cela ne signifie pas que le bois est vivant. Quand tu y poses les mains, tu perçois les souvenirs captifs d'une créature morte depuis longtemps. C'est tout.
Si tu en es si sûr, pourquoi ne pas mettre à l'épreuve ta théorie? Exposons cette pièce de bois à l'air et à la lumière. Si aucune reine dragon n'en est clos, alors j'admettrai que je me suis trompé. Je ne m'opposerai plus à ce qu'on la débite afin de construire un grand navire pour la famille Rouprousse.
Yanni poussa un profond soupir.
Que tu t'y opposes ou non, reine, cela ne changera rien, dit-elle doucement. Tu es le cadet, non l'aîné. Quand le moment viendra, ce n'est pas toi qui décideras de ce qu'on fera du dernier fût de bois sorcier.
Devant l'expression abattue de son fils, elle sentit qu'elle avait peut-être parlé trop durement. Malgré son entêtement, il était aussi singulièrement sensible. Il tenait de son père, et elle eut peur. Elle tenta de lui faire comprendre son raisonnement.
« Ce que tu proposes
exigerait que les ouvriers abandonnent les tâches qui nous sont indispensables si nous voulons voir l'argent continuer d'affluer. Ce fût est trop grand. La porte par laquelle on l'a fait passer s'est effondrée depuis longtemps. Il est trop long pour qu'on l'achemine par les corridors. La seule solution serait de défricher la forêt au-dessus puis de creuser. Après avoir brisé le dôme de cristal, il faudrait alors le hisser à l'aide de poulies et de trépieds. Ce serait une tâche gigantesque.
Si j'ai raison, cela en vaudrait la peine.
Crois-tu?
Supposons que tu aies raison, qu'en ayant exposé cette pièce de bois à la lumière, nous en ayons fait éclore quelque chose.
Alors quoi? Quelle certitude as-tu que la créature sera bien disposée à notre égard, si même elle se soucie de nous? Tu as lu, plus que quiconque, nombre des manuscrits et des tablettes des anciens. Tu dis toi-même que les dragons qui partageaient leur cité étaient arrogants et agressifs, enclins à s'emparer de tout ce qu'ils désiraient. Libérerais-tu ce genre de créature pour qu'elle se promène parmi nous? Pire, si elle nous en veut, si même elle nous hait pour ce que nous avons fait involontairement subir à ses semblables. Pense un peu à la taille de ce fût, reine. Ce serait un ennemi redoutable que tu lâcherais sur les nôtres simplement pour satisfaire ta curiosité.
Curiosité ? Bredouilla Reine, indigné. Il ne s'agit pas seulement de curiosité, mère. J'ai pitié de la créature enfermée là-dedans.
Oui.
Et je me sens coupable envers toutes les autres que nous avons détruites si inconsidérément durant toutes ces années. Le remords et le désir de réparation peuvent être des mobiles aussi puissants que la curiosité.
Yanni serra les poings.
Rain, je n'ai pas l'intention de continuer à discuter de ceci avec toi.
Si tu veux m'en parler, ce sera dans mon salon, non dans cette cave humide avec cette chose qui t'influence. Point final.
Rain se redressa lentement et se croisa les bras sur la poitrine. Elle ne pouvait distinguer son visage. Elle n'en avait nul besoin. Elle devinait sa bouche crispée et ses mâchoires contractées.
Quel entêté! Pourquoi fallait-il qu'il fût entêté à ce point?
Sans le regarder, elle déclara conciliante.
« Mon enfant, quand tu auras aidé l'équipe qui travaille dans le couloir ouest, nous pourrions préparer ton voyage à Terrilville. J'ai promis au Vestrit que tu ne tournerais pas la tête de Malta avec des cadeaux, mais il est quand même convenable que tu en offres à sa mère et à sa grand-mère.
Il faut les choisir ainsi que tes vêtements de voyage.
Nous n'avons pas encore décidé de ta tenue. Tu t'habilles toujours si sobrement.
Pourtant, un homme qui fait sa cour doit avoir le plumage d'un paon.
Bien sûr, tu devras garder le voile, mais je laisse son épaisseur à ton appréciation.
Le stratagème réussit. L'attitude de Rain s'assouplit. Yanni devina son sourire.
Voile impénétrable, mais pas pour la raison que tu imagines. D'après moi, Malta est une femme qui aime le mystère et l'intrigue. C'est ce qui d'emblée lui a plu chez moi, je crois.
Yanni se dirigea lentement vers la porte de la salle. Comme elle l'espérait, Rain lui emboîta le pas.
Sa mère et sa grand-mère semblent la considérer comme une enfant, mais tu la qualifies de femme.
C'est une femme, il n'y a aucun doute.
Le ton de Rain était catégorique. Il était fier de sa déclaration. Yanni s'étonna du changement qui s'était opéré en son fils.
Jamais il n'avait manifesté autant d'intérêt pour une femme, et pourtant elles étaient nombreuses à rivaliser pour attirer son attention.
Pour les familles du désert des pluies, les enfants Rouprous constituaient de bons partis. Une seule fois, on avait tenté d'arranger un mariage pour lui. son refus inébranlable avait été très embarrassant. Plusieurs familles de Terrilleville avaient aussi fait des propositions d'alliance que Rain avait dédaignées. Non, dédaigner était un mot trop fort. Il avait à peine consenti à en prendre acte.
Peut-être Malta Vestrit pourrait-elle le guérir de cette obsession qu'il entretenait?
Yanni sourit à son fils par-dessus son épaule en l'entraînant hors de la salle.
Je l'avoue, je suis intrigué par cette femme enfant, Malta. Sa famille parle d'elle d'une façon, tu en parles tout autrement. J'ai hâte de faire sa connaissance.
Bientôt, j'espère. J'ai l'intention de l'inviter avec sa famille à venir nous rendre visite, mère, si tu n'y vois pas d'inconvénient, bien sûr.
Tu sais bien que non. Les Vestrit ont bonne réputation parmi les marchands du désert des pluies, malgré leur refus de faire commerce avec nous. Décision qui prendra fin avec l'alliance de nos deux familles. Ils possèdent la vive nef indispensable aux négoces sur le fleuve, et elle sera dégrévée quand le mariage sera célébré. Malta et toi avez un avenir prospère devant vous.
Prospérité ? Dit Rain avec une pointe d'amusement.
Malta et moi avons d'autres perspectives que la simple prospérité.
De cela, mère, je peux t'assurer.
Ils parvinrent à une fourche dans le corridor. Yanni fit halte.
Tu vas aller ouvrir la nouvelle porte dans le couloir ouest,
déclara-t-elle d'un ton sans réplique.
J'y vais,
répondit Rain distraitement.
Bien. Quand tu en auras terminé, rejoins-moi au salon. J'aurai rassemblé des cadeaux appropriés et tu pourras choisir. Puis-je faire venir les tailleurs pour qu'ils te montrent leur dernière création ?
Mais oui, certainement,
fit-il en fronçant les sourcils d'un air absent.
Mère, tu as promis que je ne tournerai pas la tête de Malta avec des présents coûteux. Suis-je autorisé à lui offrir de simples gages ? Des fruits, des fleurs et des friandises ?
Je ne vois pas ce qu'on pourrait y objecter.
Bien, dit-il en hochant la tête.
Pourrais-tu me faire préparer des corbeilles que j'offrirai quotidiennement durant mon séjour là-bas ? Demanda-t-il en souriant.
Garnies de rubans et d'écharpes légères de couleurs vives et d'un ou deux flacons d'excellent vin. Je ne crois pas que ce soit exagéré.
Sa mère eut un sourire ironique.
Peut-être te faudra-t-il agir avec prudence, mon fils. Ronica Vestrit te rappellera à l'ordre si tu outrepasses les limites qu'elle a fixées. Pas de précipitation, il vaut mieux ne pas la contrarier.
Rain s'éloignait déjà. Il jeta un regard en arrière, un bref éclair de ses yeux cuivrés.
Je n'ai pas l'intention de la contrarier, mère, mais je n'éviterai pas non plus la confrontation.
Dit-il en continuant à s'éloigner.
Je vais épouser Malta. Plus vite elles s'habitueront à moi, plus les choses en seront facilitées pour nous tous.
Derrière lui, dans l'obscurité, Yanni croisa les bras. Manifestement, il ne connaissait pas Ronica Vestrit. Une étincelle amusée s'alluma dans son regard.
L'entêtement de son fils ne trouverait-il pas son équivalent chez la marchande de Terrilleville ?
Rain fit une halte.
Avez-vous envoyé un oiseau voyageur pour prévenir Sterb ?
Yanni hocha la tête, contente qu'il eût posé la question.
Rain ne s'entendait pas à merveille avec son beau-père. Il t'adresse tous ses vœux. La petite Kiss dit que tu attends l'hiver pour te marier quand ils seront de retour à Troisnous. Et Mando dit que tu lui dois une bouteille d'eau-de-vie de Dorian. À cause d'un pari que tu as fait il y a longtemps, que tes frères se marieraient avant toi.
Rain s'en allait déjà à grands pas.
Un pari que je suis content de perdre !
Cria-t-il par-dessus son épaule. Yanni le suivit des yeux en souriant.